Merci d'être là. Alors, je vais essayer d'être pas trop bavard.
Ah, si, c'est là pour ça.
Tout le monde applaudit Jean-Pierre Bertrand. Oh. Jean-Pierre, qui dirige la grande station régionale de Bordeaux, est un ami depuis toujours. Il était coproducteur de La Marche du siècle pendant des années avec Jean-Marie Cavada. Voilà. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la télévision. Et je suis très ému car c'est la première fois qu'un entre copains, vieux, entre guillemets, vieux copains, m'interroge. Voilà. Et d'ailleurs, il a intérêt à m'interroger, sinon par déformation professionnelle, c'est moi qui vais l'interviewer.
Oui, sauf que moi, je n'ai rien à dire.
Alors.
Allez, bon. Bien, ben après cette entrée en matière de Michel, vous aurez compris qu'il me sera très très difficile ce soir, bien qu'étant journaliste, d'être objectif. Je ne serai pas objectif, je vous le dis tout de suite. Pour une double raison. D'abord, comme le disait Michel, ça fait presque 30 ans qu'on se connaît, et que j'ai pour Michel une vraie amitié et une vraie affection, et une vraie considération et admiration professionnelle. Deuxièmement, parce que l'un des êtres dont nous allons parler, qui est omniprésent dans son livre, je l'ai bien connu aussi. J'ai bien connu Jean Drucker, qui était un homme extrêmement estimable, qui était un grand patron de télévision. Je l'ai connu, il était président d'Antenne 2. J'étais moi-même à Antenne 2 à l'époque avec Armand Jameau au dossier de l'écran et à Aujourd'hui Madame.
86.
Oui. Et puis je l'ai retrouvé de temps en temps, nos chemins se sont croisés quand il dirigeait brillamment M6, et après j'arrête de raconter ma vie, parce que c'est toi qui vas raconter la tienne, mais c'est pour planter le décor un peu, et dire pourquoi je suis un peu ému aussi d'interviewer Michel ce soir. Et que quand j'allais à M6 à Neuilly, j'avais rendez-vous avec Nicolas de Taverneau, ou avec Valentin... les patrons qui travaillent autour de Jean, et il suffisait...
J'ai une toute petite parenthèse pour dire qu'M6 et Bordeaux, il y a un lien particulier, puisque vous savez qu'M6 est propriétaire de l'équipe des Girondins de Bordeaux.
Voilà. Et donc, sortant de l'ascenseur, bien souvent, à M6, je tombais sur Jean Drucker, qui me dit « Oh, comment, hein ?» Viens, et qui m'entraînait dans son bureau. Et Jean, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, il était très bavard.
Hein ? C'est un trait de famille.
Et je me retrouvais dans son bureau à bavarder avec lui, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je lui disais, Jean, tu sais que j'ai rendez-vous avec Taverneau ou avec... Oui, c'est pas grave, on va leur dire que t'es là. Et nous passions des moments absolument formidables. Et de qui parlions-nous? De Michel Drucker.
Et ça, je vous assure que je l'ai ignoré longtemps. Je l'ai appris après la mort de mon frère.
Voilà. Donc je suis un peu... Je ne serai pas objectif du tout, mais je suis très heureux et un peu ému aussi d'interviewer Michel ce soir et d'évoquer sa vie, sa carrière brillante et le souvenir de Jean. Alors, Jean, parce que tu commences ce livre, et les premières pages de ce livre, pour ceux qui l'ont lu, sont bouleversantes. Et on se dit, tiens, pourquoi a-t-il attendu 7 ans? Puisqu'il y a 7 ans que Jean nous a quittés, toi je dis nous a quittés. Et pourquoi tu as attendu 7 ans pour écrire? Et pourquoi ce choix, cette forme de livre? Est-ce que tu as hésité sur une longue lettre que tu lui aurais envoyée?
D'abord, j'avais peur de ne pas aller au bout, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette tragédie, et que j'ai pensé que c'était bien de passer par un livre intermédiaire qui était « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et à la fin de « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» parce que je voulais absolument écrire quelque chose sur mon enfance, parce qu'il y a eu un très grave malentendu, enfin, pas grave, avec les téléspectateurs, c'est que pendant des années, jusqu'à ce que j'écrive ce livre, est-ce que c'est parce que j'avais l'air bien élevé, harmonieux, venant de la province, avec ce que ça représentait
Le genre idéal.
Voilà, c'est ça. Toujours. Et puis... en réalité, il y a eu un petit malentendu, c'est que tous les gens pensaient que j'avais fait de brillantes études. Et un jour, il y a une dame qui disait à son fils, « Tu vois, regarde, il a bien travaillé, Michel, regarde, t'as vu ?» Non, non, madame, vous vous trompez. » Et les gens n'arrivaient pas à le croire. que je n'ai pas fait d'études du tout et que j'ai quitté l'école à l'âge de 17 ans. Ça a été un drame que vous verrez d'ailleurs sur France 2 dans 2 ans, puisque le livre va être adapté à la télévision. J'ai lu d'ailleurs l'histoire dans le train tout à l'heure, que ça m'a fait drôle. Et quand je vais voir celui qui joue mon rôle ou ceux qui jouent les rôles de mes parents, ça va être assez étrange pour moi. Donc, je suis passé par ce tas d'intermédiaires qui étaient qu'est-ce qu'on va faire de toi. Et à la fin, si vous vous souvenez de la fin de ce livre, j'étais sur les routes de Provence. J'allais dire bonjour au cimetière des Galières à maman et à mon père qui est sous un olivier au beau de Provence. Et bien entendu, je leur racontais que tout va bien, etc. Et s'ils avaient appris la mort de leur fils, je crois qu'ils seraient morts une deuxième fois. Donc voilà, j'ai voulu écrire sur cette enfance pour me libérer de tout ça. Et puis après, alors là, il y a le devoir de mémoire qui m'a envahi. Je me suis dit, je ne veux pas qu'on oublie mon frère, parce que c'était un patron, et Jean-Pierre l'a dit, qui n'était pas comme les autres. C'était pas un patron cynique, c'était un patron très humain. Et en plus, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. Quand il est sorti de l'école nationale d'administration, j'étais déjà à la télévision, et je lui ai donné quelques petits tuyaux. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux, parce que ça encore, c'est un hasard. Vous savez, les personnages de la famille Drucker sont des personnages de Lelouch. Partir, revenir, hasard et coïncidence, ces amours-là. Il y a des coïncidences très troublantes qui sont le thème essentiel de la filmographie de Claude Lelouch, le hasard. Alors, est-ce que c'est le hasard ? Toujours est-il que quand mon frère est mort, il est mort le week-end où j'allais lui tendre la main, il n'était pas bien dans sa peau. D'ailleurs, ça sera le sujet de mon prochain bouquin. Contrairement à ce que vous pensez, nos métiers sont des métiers très difficiles, qu'on soit devant ou derrière. Je le dis d'ailleurs dans le livre. J'ai toujours refusé. François Mitterrand me l'avait proposé. Jacques Chirac aussi, le président Sarkozy aussi. Michel, vous avez l'âge du rôle. Pourquoi vous rentrez pas dans l'appareil ? Vous seriez un très bon patron. Je dis ça devant Jean-Pierre Bertrand, qui connaît le métier de patron. Être patron, passer le délice de la fonction et la fierté d'être un grand patron, au bout de 3-4 jours, c'est l'enfer qui commence. Être patron des services publics, c'est être un premier ministre quelque part. C'est un poste terrible. J'ai vu mon frère être patron, même si c'était un patron audiovisuel, c'était un patron différent. Il a terminé sa vie en morceaux. Voilà, bousillé nerveusement, démoralisé, il ne sait pas ce qu'il allait devenir. Il avait encaissé pas mal de choses. Vous savez, il était 40 ans patron. Moi, je suis à la télé depuis 46 ans. Même si ça ne se voit pas, même si j'ai dîné avec Benoît Poulvord avant-hier, on faisait une émission ensemble. Il me dit, cache-toi. Bah, j'ai dit, tu sais, si je te donne mon âge, tu vas être un petit peu étonné. Il me dit, tu sais, moi, j'ai 47 ans. Je commence à sentir le poids des années. Alors j'ai dit, tu sais, Benoît, j'aimerais tellement les avoir encore. Il me dit, quel âge t'as ? Il me dit, t'as dit quoi ? T'as 10 ans de plus que moi ? Je dis, non, j'ai plus. 15, non, plus. 18, non, 20, plus. J'ai dit, j'ai 21 ans de plus que toi. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, quel est ton secret ? Je dis, jamais de cocaïne, d'abord. De l'eau, là. Et puis des parents qui ont eu cette chance-là de ne pas faire tout à fait leur âge. Mais les 46 ans d'heure de vol, je peux vous dire que je les ai. Le stress, l'inquiétude, ne pas disparaître, comment faire pour gérer tout ça. Bon, et mon frère était au bout du rouleau. Alors, donc ça. Je me suis dit, je vais écrire sur mon frère et à travers ça, faire passer quelques petits messages avec une série de portraits qui ne sont pas des portraits par hasard, sont tous des gens qui étaient dans le panthéon de mon frère et qui ont tous un point commun. Ils sont dans la dernière ligne droite. Ce qui ne va pas, Tadam, arriver.
Dis-moi, je disais tout
mais
à l'heure...
Mais ça livre sur la mémoire, hein, bien sûr.
Je disais que tout à l'heure, les premières pages de ce livre étaient absolument bouleversantes parce que tu essayes de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, tu essayes de comprendre pourquoi il est mort. Alors, tu dis bah, parce que c'était une aptitude au bonheur. Une inaptitude au bonheur.
Mais ça, c'est les gens. C'est les Askenas qui viennent d'Europe de l'Est. Hein. Les gens de l'Est n'ont pas le même profil que les Méditerranéens. Mon père, je le raconte dans le livre, vient d'Europe centrale, c'est un Français de sang mêlé, naturalisé en 1937, moi je suis né en 1942, et qui a toujours eu peur que le malheur revienne. Donc mon père disait, il faut découdre l'étoile jaune, il faut être plus français que les Français, il faut remercier la France de nous avoir accueillis, donc vous allez être des numéros un. il y aura un ministre, il y aura un prix Goncourt, il y aura un grand violoniste. Bon, avec moi, ils ont eu du mal, évidemment. Et voilà. Et mon père voulait que sa façon de remercier la France, de l'avoir accueilli dans ces années-là, c'était de donner à la France trois sujets d'exception qui serviraient bien ce pays. Mais si tu parles à Sylvie Vartan, qui vient de Bulgarie, si tu parles même à Nicolas Sarkozy, vient de loin également, Jean-François Copé, roumain comme moi, d'origine roumaine, maintenant c'est une province qui est russe. Tous ces gens-là ont voulu... C'est pour ça souvent que lorsqu'on parle entre nous, nous qui venons de loin, qui sont des Français, qui ont adoré ce pays, mais dont les parents viennent de loin, souvent on se dit, mais on a l'impression qu'on aime souvent davantage la France que les Français eux-mêmes. Et que les Français ne se rendent absolument pas compte. Ils savent pas. Demande à Sylvie Vartan de te raconter quand elle est arrivée à 8 ans, avec sa valise. C'était tellement, tellement heureux. Et mon père a supplié la France. Je produis le document d'ailleurs. Il était là depuis les années 30. Il disait, mais je voudrais être médecin français. Il a fait sa médecine à Tours. Il suppliait la France d'être français. Et quand il a été naturalisé, quel bonheur c'était. Donc, on n'est pas des gens calmes. On est des gens très angoissés dans la famille, même si ça ne se voit pas. Et puis, mon frère, il est mort aussi d'angoisse parce qu'il ne savait pas où il allait aller. Quand on reçoit un coup de téléphone sur sa ligne privée à 5h30 du matin, sauf si c'est Johnny qui vous appelle de l'autre coin du monde,
parce qu'il
est en décalage horaire et dit « Allô, c'est Johnny, je te réveille ?» Je dis « Non, non, tu rigoles, Johnny, je rentre de boîte à cette heure-là. Bon. » Eh bien, quand on reçoit un coup de téléphone, ça n'annonce rien de bon à 5h30 du matin.
C'est
vrai. D'abord, c'est quelqu'un qui connaît votre téléphone privé. Et là, on m'a annoncé avec une voix froide, voilà, Michel, ton frère vient de mourir. La terre s'est effondrée. J'ai été réveiller sa fille Marie pour lui annoncer. Et puis, c'est le début du livre.
C'est le début du livre, le début bouleversant. Et c'est vrai que tu cherches... Alors ça, c'était l'inaptitude de Jean au bonheur, comme tu viens de l'expliquer. Et toi, dans ces premières pages aussi, c'est... Mais comment j'ai pu passer à côté ? Comment je n'ai pas su qu'à 6 km de chez moi, puisque vous habitiez tous les deux des maisons en Provence,
et puis comment
Jean
j'ai pas
était
deviné
en train de partir et comment il allait mal. Ouais. Alors que tu étais remonté à Paris la veille.
C'est très étrange. Vous savez, ma deuxième région de vie, c'est la Provence, où mon père repose sous un olivier. Ma mère est au cimetière de mon village. Mon père s'était remarié. Il avait découvert les Alpilles, que vous connaissez sans doute, cette région magnifique entre Saint-Rémy-de-Provence et Cavaillon. Et dans les années 75, il a construit une petite maison, en nous faisant promettre qu'on viendrait le rejoindre, et quand on pourrait le faire sur le plan économique, qu'on viendrait nous aussi acheter ou construire une maison près de lui. Malheureusement, il a fait cette maison, et puis il a vécu 2 étés seulement, il est mort. Mais on a tenu notre province. Et on était en Provence. C'était le week-end de Pâques 2003. Moi, j'étais là. Je préparais une émission qui vous a peut-être laissé un petit souvenir sur les 50 ans de la Patrouille de France, à Salon de Provence, juste à côté de chez moi. Et parce que je suis voisin des pilotes et c'est ma passion. Et puis, mon frère devait me rejoindre ce week-end de Pâques. Voilà. Et j'allais lui proposer un projet qu'il aurait accepté. J'allais lui proposer, écoute, t'es au bout du rouleau, t'en as marre d'être patron, t'es encore jeune. Eh bien, écoute, c'est très simple. On va s'associer. On va mettre une plaque, comme la même plaque de Dr Drucker à Vire, une plaque en marbre, Jean et Michel Drucker, docteur en télévision. Et on va passer 10 ans magnifiques avec mon expérience et la tienne. On était presque jumeaux, 13 mois d'écart. C'est très rare dans ce métier que deux frères presque jumeaux ont fait le même métier. Moi, j'étais là depuis 45 ans, enfin 42 ans.
Tu dis ça, mais en même temps, s'il n'était pas parti... T'aurais dit à Sarkozy, oui, Jean et moi, on va y aller, on va te la diriger, la télévision publique.
Si mon frère avait été là, je serais peut-être avec lui, peut-être aujourd'hui, un des patrons des services publics, seul, pas question, avec lui peut-être. Mais ce qui est troublant, c'est que le 17 avril, je suis là. Lui doit arriver le 15 avril, il doit arriver le lendemain. Je rentre à Paris faire un saut. Je prends le TGV pour redescendre le lendemain midi. Et c'est cette nuit-là qu'on téléphone sa compagne, avec qui il va un petit garçon qui a aujourd'hui 13 ans, en disant ton frère vient de mourir. Je dis mais où, quand, comment, tu es où ? Anaïs s'appelle Anaïs. Elle me dit je suis en Provence. Elle me dit je rentre de Provence. Et je ne savais pas qu'il est descendu un jour plus tôt. Et ce qui est d'autant plus tragique, c'est que les 2 jours où il était là, enfin les 24 heures où il était là, et je ne savais pas qu'il était là, je suis passé 3 fois en vélo devant sa maison. pour faire ma balade quotidienne. Je ne sais pas, je ne sonne pas puisque je sais qu'il n'est pas arrivé. Alors qu'il est là, qu'il est dans une chambre, qu'il n'est pas bien, que les volets sont fermés. Et je passe sans savoir que de l'autre côté du mur, déjà il est en train de mourir parce qu'il va très mal. Donc je m'en suis voulu de ne pas savoir ça. Je m'en suis voulu de ne pas avoir deviné qu'il allait mal. Et voilà. Et c'est pour ça que le début du livre, c'est mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné que je n'ai pas senti ? Je fonce à Orly, le week-end de Pâques, après avoir réveillé Marie, sa fille. Je frappe à la porte, elle sonne à gare, 6h du matin. Papa vient de mourir, elle s'effondre. Son compagnon s'occupe d'elle. Moi, je fonce à Orly, et c'est ce que je décris. Et je ne sais pas, je ne me rends pas compte que je ne suis pas passé par la salle de bain, que je ne me suis pas rasé, que j'ai remis les vêtements de la veille, ce qui m'arrive évidemment jamais. Et je fonce, le chauffeur taxi voit un truc bizarre dans le rétroviseur, il dit, il sait que c'est Michel Drucker, et en même temps, il voit quelqu'un qui n'est plus du tout un personnage public. J'arrive à Orly, il y a la queue à la navette de Marseille, week-end de Pâques, et les gens me voient, et je vois qu'ils me dévisagent et quelque chose qui ne va pas. Et pour cause. Et ce que je dis, le point commun entre vous et nous, quand on a des drames comme ça, c'est que les chagrins nous donnent la même tête. Et ce jour-là, je ne suis plus un personnage public que les Français connaissent depuis 40 ans. Et les gens me disent, ça va, M. Drucker, ça va bien, ça va bien. Je ne me rends pas compte que j'ai une chemise que j'ai mal boutonnée, que j'ai même un lacet que je n'ai pas serré, que j'ai mis un jean au hasard et la veste de la veille, j'ai tout mélangé. Bref, j'arrive à Marseille. Je fonce, une dame m'a donné sa place dans la navette, j'arrive, les pompiers sont encore là, et je vais me laver les mains, je vais aux toilettes, je me regarde dans la glace, et je comprends pourquoi tous ces regards depuis 3 heures, c'est qu'effectivement, je suis habillé n'importe comment, et je ressemble à quelqu'un qui a du chagrin, et je ne suis plus Drucker. Je suis un homme comme tout le monde, qui vient de perdre son frère. Mais ce début du livre a été très douloureux, parce que j'ai tout revu, dans les moindres détails. Il est mort d'une crise d'asthme, ce qui est rarissime, un bronchospasme, il y a 2000 cas par an, qui est un signe d'une grande anxiété. Il a dormi dans une chambre, seul, il n'était pas bien depuis 2 jours, je ne savais pas. Et j'ai essayé de refaire le film. Donc je suis arrivé, j'ai veillé mon frère qui était là pendant 2 jours et 2 nuits. Il y avait juste mon chien qui était à ses côtés. Et dans ce livre, 7 ans après, j'essaie de refaire le film, comme dans un film policier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? À quel moment la crise d'asthme, je ne sais pas si vous avez déjà eu des parents qui ont une crise d'asthme.
À 6 km de chez toi.
Voilà, et à 6 km de chez moi, ça commence à monter. Moi, je suis à Paris alors que ma famille est encore là. Et je me dis, mais pourquoi ? À quel moment cette crise a commencé ? Il est mort à 5h30 du matin. Ça a dû commencer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'arrive pas à refaire le puzzle. Je me suis interrogé pendant des années, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, les gardiens ? Et puis j'ai abandonné, parce que ce n'est pas ça qui me ramènera mon frère. Mais le début du livre est assez douloureux, parce que je m'interroge. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, à 62 ans, on meurt d'une crise d'asthme, isolé, loin de tout. Donc j'ai beaucoup culpabilisé.
Alors ce frère... Vous étiez très proche, presque jumeaux, puisque vous aviez quelques...
On avait 13 mois d'écart.
13 mois d'écart. Il y a une anecdote. Je dis que vous étiez très proche, parce que vous avez vraiment vécu complètement ensemble, avec ta maman, notamment. L'histoire des billes est quand même très significative de vos rapports. Et de l'admiration que tu portais déjà petit à ce frère aîné.
Toi qui sais, tu connais mon bureau à Paris, vous rentrez dans mon bureau, il y a des photos de mon frère partout. Et il y a une énorme photo de lui dans le bureau d'M6 qui est prise quelques mois avant sa mort. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos familles, vous avez ça avec une sœur ou un frère. Moi, la star, ma star à moi, ce n'est pas celle que je décris à travers Hallyday, etc., bien que ce soit des gens que j'adore, qui sont des idoles pour moi. Mais la vraie star de ma vie, c'est mon frère. Quand j'étais jeune... Il était d'une beauté incroyable. À la fois
c'était un gentleman, son
entre
frère.
Anthony Perkins et Jean-Claude Brialy, grand séducteur, toutes les femmes à ses pieds. Comme il était l'aîné, il avait des vêtements neufs, dont on en héritait après. il était beau, il était intelligent, il était brillant, il avait de l'humour, il avait tout. Donc moi, j'étais baba, et il était le premier de la classe, et moi le dernier. Et je ne savais pas quoi faire pour lui faire plaisir. Et chaque année, pour son anniversaire. À l'époque, on avait des billes magnifiques. Il adorait les billes. J'allais lui acheter des billes au bazar à 200 mètres de la maison. Et là, quand on a l'âge qu'on a sur la couverture du livre, ma mère me dit, ce soir, papa va se débrouiller, il doit aller à la maternité, mais la dame qui doit accoucher, c'est plutôt pour 22 heures, il sera là à 8 heures, c'est l'anniversaire de Jean. Je dis, tu penses, j'ai économisé toute l'année pour lui acheter des billes. Donc, je suis là, je vais acheter des billes, j'ai pas assez d'argent, mais le marchand de couleurs me dit, Michel, c'est pas grave, tu les paieras plus tard, je vais donner des billes américaines les plus belles, j'ai mon sac de billes. Il est 8h moins le quart. Et je cours avec mon sac de billes. Dans la maison, place de la gare à Vire, à côté de la maison, il y a un chantier de granit. Je me prends les pieds dans un caillou et je m'empale le visage à l'angle d'une pierre tombale. Et j'ai ce trou-là, que vous ne voyez pas à la télévision parce que j'ai une bonne maquilleuse. J'ai un trou-là, voilà, depuis l'âge de 12 ans. Je suis défiguré, je rentre dans la cuisine, ma mère voit un espèce d'œuf de pigeon qui s'en fait en pamplemousse de sang, et je suis défiguré. J'ai une gueule cassée. Mon père va arriver, je lui dis encore, attends, déjà je suis mauvais élève, en plus j'ai une gueule cassée, moi. Il va encore être obligé d'avoir un patient de plus ce soir. J'arrive, même mon père qui est médecin est terrifié, on me transforme à la clinique, on commence à essayer de résorber l'hématome, et on va m'endormir, et il y a l'infirmière qui dit, mais il est très très crispé, et je ne veux pas lâcher le sac de billes de mon frère, c'est ce que je raconte dans le livre.
Voilà. Dis-moi... revenons justement à ta famille un petit peu, cette jeunesse, cette enfance. Je disais, Jean était un gentleman, c'est vrai, c'était un gentleman de la télévision.
Il était premier en tout.
Un gentleman de la télévision, ce qui est la télévision n'est pas fréquent.
Non, à la télévision, il y a quand même des tueurs, c'est un métier très dur. Et lui, il devait vous recevoir 5 minutes, il vous gardait une heure.
Ouais, exactement. Dis-moi, alors quand tu as commencé, toi, on va parler un peu de tes parents aussi, de ton enfance. Quand tu as commencé la télévision, il faut bien dire que ce que tu racontes dans ce livre, en évoquant Jean également, c'est aussi l'horreur pour ton père d'avoir un fils qui fait de la télévision. Une mère qui pense que tu ferais mieux d'être Bernard Pivot qu'un jeune journaliste sportif. Alors, ou animateur de variété.
Mon père est mort en 83, 3 semaines avant la première de Champs-Élysées. Il aurait été étonné de voir que 25 ans après, on est revenu. Ma mère, son idole, c'était Chancel et Pivot. Et quand je la voyais le dimanche soir, elle me disait, tu sais, j'ai vu au Grand Échiquier Yehudi Menuhin. Et j'ai vu Arthur Rubinstein, j'ai vu Pablo Casals, et chez toi, j'ai vu Mireille Mathieu. Et j'ai dit, maman, Mireille Mathieu, c'est pas des... Non, oui, mais pourquoi Rostropovitch n'est jamais chez toi? Il est toujours chez Chancel et Yehudi Menuhin également. Je dis, maman, parce que je suis encore jeune, mais un jour... Oui, mais enfin, quand même. Elle ne lisait que l'Observateur, que Le Monde et Télérama. Donc, elle tombait jamais sur moi. Et un jour, j'ai 28 ans... Simone de Beauvoir, il y a un chapitre qui s'appelle Les Trois Simones, les trois femmes qui m'ont le plus intimidé dans la vie. C'est Simone Veil, Simone Signoret et Simone de Beauvoir. Ma mère me dit, qu'est-ce que j'apprends? Tu vas recevoir Simone de Beauvoir. Donc je me suis dit, elle va être alors là, vachement fière. Je parle de Mireille Mathieu à Simone de Beauvoir, c'est pas mal quand même. Hein, de Claude François à Simone de Beauvoir à Jean-Paul Sartre, c'est bon, j'étais content quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dis, maman, je vais travailler, mais t'as rien lu. Tu sais même pas qui c'est. Je dis, maman, je vais travailler. Donc ma mère était comme ça, elle se rendait pas compte. Voilà, le jour où je lui présente Hervé Villard, elle me demande si c'est la famille de Jean Villard. Je dis, non. J'aurais présenté une émission avec Carole Rousseau, elle m'aurait demandé est-ce que c'est la famille de Jean-Jacques. Bon. Et un jour, elle voit François Valéry. Elle dit, qui c'est? Je dis, c'est François Valéry. Elle me dit, c'est la famille de Paul. Je dis, non. Parce que c'est la famille de Paul, il a les cheveux bien jaunes. Bon. Ma mère était comme ça. Elle me faisait de la peine, mais elle s'en rendait pas compte. Parce qu'elle voulait tirer vers le haut. Donc les repas du dimanche soir, j'en prenais plein la poire. Il n'y en avait que pour Chancel, que pour Pivot. Qu'est-ce que j'ai pu les détester tous les deux. Mais ils se marrent maintenant. Et puis un jour, voilà, elle a découvert quand même ce que je faisais était pas mal. Mais malheureusement, ma mère, elle est morte en 2006. Elle n'a pas vu, en 96, pardon, elle n'a pas vu malheureusement Vivement Dimanche. Et elle a vu Champs-Élysées. Mon père n'a pas vu ni Champs-Élysées, ni Sud de Gabriel, ni Vivement Dimanche. Il a vu que ma carrière de reporter sportif et un peu mes premières émissions de variété. Donc, il n'a pas pu voir le meilleur, si j'ose dire.
Alors, tu écris, justement, dans un chapitre que tu consacres essentiellement à ta mère et à tes parents en général. C'était étrange. J'ai passé ma jeunesse à redouter mon père et les 20 ans qui suivirent à rêver d'épater ma mère. Mmh. Ça fait un beau bagage.
Écoute, François Mitterrand, 2 ans avant sa mort, alors que je ne l'avais pas demandé, me remet la Légion d'honneur. Et ça tombe le jour d'anniversaire de ma mère, qui avait 80 ans. T'imagines l'événement. Nous venons de loin, la Légion d'honneur, alors bon, mon pauvre papa n'était pas là, quel dommage. Donc ma mère achète une robe neuve. Alors, je veux dire qu'elle était dans un état, en plus, bon... Elle était plutôt d'une sensibilité proche de celle de Mendès France, Mitterrand et toute cette époque. Et puis, M. Mitterrand, comme toujours, tu te souviens des légions d'honneur à l'Élysée, sans une note, il avait 10 récipiendaires, 10 discours, sans une note, tout, incroyable. Il refait l'arbre généalogique de la famille. Ah, Champs-Élysées, les papas, ça, mon père, venu de loin, bon. Et voilà, et à la fin, il serre des mains. On a droit à, quand on est récompensé à l'Élysée, on a droit à 15 invités, pas plus. Donc, les proches étaient là, ce qui nous reste de famille, et pratiquement pas. Et monsieur le président, voilà ma mère. Ah, c'est vous, Lola Scheffler. Alors, dont j'ai parlé dans le discours, il m'a dit, donc, il s'est pas mal débrouillé, votre fils, vous vous rendez compte? Quelle belle famille, un frère aux fonctionnaires, son frère aîné, mon frère Jacques, un très grand médecin, professeur de santé publique, qui est un des grands, qui travaille sur le sida, conseiller scientifique aujourd'hui à l'ambassade de France à Washington. Et il dit, alors, vous êtes fier? Et ma mère intimidée dit, monsieur le président, oui, bien sûr, c'est un jour émouvant pour la famille. Et j'espère que cette médaille que vous lui avez accrochée à la revers de la veste sera pour lui un encouragement à progresser. Et Mitterrand me regarde et il me dit, je sais pourquoi dans la famille, on gardera toujours la tête froide. Et jusqu'à sa mort, il s'en est souvenu. Je dis, maman, tu aurais pu dire autre chose. Non, non, mais tu comprends, il faut... D'accord. C'était ma mère.
Alors, pour parler encore de tes souvenirs...
Elle avait raison.
Des souvenirs de tes parents et de ton père, avant qu'on passe à tous tes amis et les vedettes et les stars que tu as croisées, que j'ai découvert un livre, Jean, quelquefois ne connaissait pas et avait envie de connaître.
Oui. J'ai présenté à Jean à l'idée, il était encore étudiant à l'ENA, parce qu'il était troublé par l'idée, il me dit, présente-moi ce gars qui est silencieux, etc. J'ai présenté Belmondo parce qu'il était fou de Godard, et qu'à bout de souffle était son film fétiche, et mon père était amoureux de Gene Seberg. Je lui ai présenté Delon parce qu'il adorait Visconti. Je lui ai présenté Ferrat qui était l'idole de la famille. Je lui ai présenté Giraudeau qui était mon copain que j'avais connu sur le tournage d'Un homme dans la ville avec Delon et Gabin. Alors, il débutait. Et je lui ai présenté Aznavour.
On va venir sur les stars.
Et ce sont les portraits que je fais dans le livre.
On va venir un peu plus tard sur les portraits des stars qui sont dans le livre. Je voudrais revenir un instant sur un événement important aussi pour toi, que tu m'avais raconté d'ailleurs quand tu es venu il y a 2 ans, je crois, 3 ans à Bordeaux, et tu m'avais dit, je suis en train d'écrire ce livre, je vais raconter cette histoire, pour moi c'est absolument incroyable, c'est le retour à Compiègne et à Royal Lieu.
Alors Compiègne c'est compliqué.
Mais ça c'est fascinant.
Il n'y a que dans un film de Lelouch qu'on trouve ça. Mon père a été arrêté, sans dénonciation, en 1942, moi j'étais dans le ventre de ma mère, mon frère avait 1 an, Jean. Je vous raconte pas les péripéties. Il atterrit à Compiègne, il est resté 1 an. Comme il parlait l'allemand et comme il était médecin, il faisait partie des médecins juifs que les Allemands ont utilisés pour se livrer à un simulacre de médecine, ils n'avaient pas de médicaments. Ensuite, il est allé à Drancy. Je vous signale que Compiègne, c'est le camp d'où sont partis les premiers wagons plombés pour Auschwitz. Moi, insouciant, d'abord, je reçois ma convocation, mon père devient blanc. Et il découvre que 18 ans plus tard, je suis affecté dans le camp de Compiègne, devenu le camp de Royal Lieu, base 117 de l'armée de l'air. Il y a une photo dans le livre. Il est devenu blanc. J'avais 18 ans, je n'ai pas mesuré le désarroi de mon père. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois là-bas, j'ai réalisé, je n'ai pas voulu qu'il vienne me voir. De toute façon, j'étais en tôle tous les week-ends. J'avais jamais de permission parce que j'arrivais pas à prendre ça au sérieux. Et puis, 45 ans plus tard, l'année dernière, enfin oui, il y a près de 2 ans avec Simone Veil, nous sommes invités pour l'inauguration du mémorial du camp de Royallieu. Pour des raisons personnelles, Simone Veil ne peut pas venir. J'arrive là-bas. Et là, le choc de ma vie, il y a 3 baraquements sur les 17. Et je vois que l'historien, le président du mémorial, est assez gêné. Alors, il y avait 50 000 personnes sont passées dans ce camp. Communistes, juifs, tziganes, résistants. Ils sont tous partis. Très peu sont revenus. Et il y avait des familles qui étaient là. 17 baraquements. Il n'y avait que 3 qui servent de musée. Et j'arrive et je dis, j'étais là. Voilà où j'étais là. Moi, j'étais là 8 mois dans ce baraquement-là. Et je vois qu'ils sont très gênés et j'apprends et je découvre que c'est le baraquement de mon père. Ça veut dire que 18 ans après, j'ai dormi là où mon père a été pendant en 42 avant d'aller à Drancy. Vous imaginez le choc que ça a été. Donc j'ai été assommé par tout ça. En partant, on m'a remis, il a fallu que je me prenne la parole à la tribune devant beaucoup de familles. C'était très angoissant pour moi. Et on m'a donné le facsimilé d'un compte-rendu que mon père a écrit en 46.
Qui est dans le livre, d'ailleurs.
Et qui raconte la vie au quotidien en camp de Drancy. Je le répète, les premiers wagons qui sont partis à Auschwitz partaient de Compiègne. Donc je suis probablement le seul être au monde qui a dormi pendant 8 mois là, dans la chambrée où était mon père en 42. Donc, avec le recul, c'était effrayant. Si mon père savait ça, je le raconte. Et je vais passer... Jean-Pierre, je vais te parler le livre une seconde. À Compiègne. Et là, vous allez voir quelque chose de très troublant. C'est Madame Jacqueline Beaujour qui s'occupe du Festival de Ramatuelle qui m'a rappelé ça. C'est que Marie-Paul Bell, que je connais, a écrit une chanson et qui parle de Compiègne. Et c'est le titre du chapitre. C'est la page... Combien 56.
55.
Regarde, tu la mets à 55 et vous allez voir que cette chanson est absolument bouleversante et je l'ai mise au début du chapitre parce que c'est tellement troublant. Voilà. Voilà ce que ça dit. Compiègne, c'est le titre du chapitre, hein, c'est très court. Une si jolie petite ville, bien installée au bout d'une forêt, qui ne demandait rien aux autres que la paix. Un soir, mon père m'en a parlé. Une si jolie petite ville, un coin de France, en montant vers le nord, d'où des millions de gens sont partis vers la mort. Un soir, mon père m'en a parlé. Tout est devenu tranquille. Il y a longtemps qu'on les a oubliés. Ces convois de voyageurs pour l'éternité. Pourtant, la gare n'a pas changé. Une si jolie petite ville... Où est la poste? Un gamin te répond. C'est juste derrière le camp de concentration. Est-ce mal, est-ce bien que le gamin ne sache rien? Et c'est Marie-Paul Bell qui a écrit cette chanson avec Pierre Delanoë.
Et Françoise Ménégeris.
Et Françoise Ménégeris. Donc moi, j'ai vécu cet épisode-là et je le raconte parce que ce livre est aussi un devoir de mémoire complet, devoir de mémoire envers mon frère, et envers mon père, mais je peux vous dire que quand vous revenez 45 ans après et vous dites c'est là où votre père a été interné, mon père était là à Drancy, il a échappé à la mort parce que il était médecin, et je l'écris dans le livre, je me souviens de tous ces silences quand on parlait de ce sujet-là, moi j'étais trop gamin pour me rendre compte, mais ceux qui sont revenus ont culpabilisé d'être venus. Et ceux qui ne sont pas allés ont culpabilisé pourquoi les autres sont allés et pas moi. J'en ai beaucoup parlé avec Simone Veil. C'est un sujet très très douloureux. Et mon père, parmi les drames et parmi son stress, il y avait ça.
Tu sais, tu as dû connaître un de nos amis communs qui était réalisateur à la télévision qui s'appelait Jacques Gérard Cornu.
Bien sûr.
Qui avait été déporté lui aussi à 18 ans. Il a attendu 1978... pour en parler ouvertement et facilement dans sa famille et à ses petits-enfants, et sortir des cahiers qu'il avait écrits.
Et dans l'adaptation de mon livre « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», il y a une scène, justement, à Compiègne, et il y a une scène où vous allez revivre en image ce que je viens de vous dire.
Alors Michel, tu viens de citer plusieurs fois Simone Veil. Il y a un chapitre auquel tu faisais allusion tout à l'heure qui s'appelle les trois Simones. Il faut dire que ce sont quand même trois monuments. Hein.
Oh,
je ne sais pas, si c'est le prénom qui veut ça.
Alors, bon, Simone de Beauvoir.
Mais c'est trois monuments.
Je vous en ai parlé, j'ai préparé l'émission, ma mère était terrifiée. Et j'ai lu tout, j'ai lu Sartre, j'ai lu les mémoires d'une fille rangée, j'ai vu le deuxième siècle, j'ai tout lu sur le féminisme. Bref, elle a été assez méprisante sans le savoir. On lui a dit, ben, y a une émission qui est pas mal.
C'était pas son monde. Hein.
Je ne veux pas cautionner la télévision de Giscard. Mais on m'a dit que pour la sortie de ce film sur Sartre de Beauvoir, votre émission était plutôt pas mal. Merci madame. Putain, j'ai dit, vous savez. Et la première question qu'elle m'a posée, qu'est-ce que vous avez comme bagage ? Simone de Beauvoir qui te demande, elle, professeure de philosophie, au départ, qu'est-ce que vous avez comme formation littéraire ? Cagne, hypocagne, normal sup ?
Tu sais que je serais autant embarrassé que toi, puisque moi j'ai quitté l'école en seconde aussi. Donc
et quand ma mère me demandait souvent, ton copain qui a comme bagage, dis toujours un sac de sport. et j'ai dit, écoutez madame, je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'études. Elle m'a regardé comme un insecte. Elle m'a dit, ah bon ? Mais j'ai vu dans sa tête, mais comment on lui demande de me recevoir, lui, qui n'a pas fait d'études ? Et je me lance avec beaucoup d'audace, je dis, vous savez madame, quand vous étiez professeur de philosophie au Havre, j'ai lu quelque part que seul le premier rang vous intéressait. Donc même si j'avais été votre élève, on ne se serait jamais croisé, car moi j'étais au fond près du poil. Alors ça l'a amusé, et j'étais déjà au premier rang. Et finalement, l'émission s'est bien passée, je me suis vraiment bien préparé, évidemment Juliette Gréco, évidemment des existentialistes, évidemment Saint-Germain-des-Prés, évidemment tout ça. Et puis elle m'a envoyé un petit mot en disant... je vous remercie, vous avez fait du bon travail, merci madame. Et ma bouchère, qui ne sait pas qui je suis depuis 35 ans, m'a dit, madame, je vous ai vu hier chez Michel Drucker, les côtelettes c'est gratuit. Et elle m'a dit, grâce à vous, ma bouchère m'a offert des côtelettes alors qu'elle ne sait pas qui je suis. Mais ma mère était assez contente, mais ma mère aurait été folle de rage. Car il y a 3 ans, le Nouvel Observateur a publié un dossier sur De Beauvoir.
Il y avait la fameuse photo de couverture.
J'étais très fier d'être parmi ceux qu'on a interrogés, car on n'est pas si nombreux à faire une émission avec De Beauvoir. Et pour illustrer ce reportage, il y avait à la une de l'Observateur, Simone de Beauvoir, complètement nue, de dos, faisant sa toilette, photographiée par son amant américain. Qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas montrer ça à maman. Regarde De Beauvoir, elle n'a pas sa culotte. Et madame de Beauvoir ne supportait pas de sortir sans son turban. Là, elle n'avait pas de culotte.
Alors, l'autre Simone, qui était pas mal non plus, et qui avait un foutu caractère, moi aussi, je l'ai un peu croisé. Signoret.
Alors, Signoret, c'est pas par hasard si j'ai mis sur orbite Benjamin Castaldi, le petit-fils de Simone, et à qui j'ai mis le pied à l'étrier, c'était en souvenir de sa grand-mère et de mon temps. Signoret, c'était une institut. C'était un professeur, elle faisait autorité, mon temps disait amen, et il y avait tous les intellectuels de gauche de l'époque, Jean Semprin, évidemment, Levaille, José Arthur, tout le monde était là.
Jean Daniel,
Bernard Kouchner, c'était la grande messe, c'était le Nouvel Observateur.
Dans la roulotte,
que j'ai appelé méchamment, et ça a énervé ma mère. Souvent, je dis, oui, tu parlais de la gauche caviar. Donc, ça l'énervait beaucoup, ma mère. Et puis, Simone Signoret...
La roulotte étant l'appartement qu'habitait Simone Signoret, et Yves Montand, place Dauphine à Paris, à côté du Palais de Justice.
Ou quand on était invité chez Signoret Montand, alors là, bon. Et, je sais pas, Signoret m'aimait bien, et Montand aussi. Il regardait mes émissions, etc. Et de temps en temps, il me donnait des bons points. Je connaissais Catherine Allégret, Benjamin était tout petit, et elle me donnait des bons points. Bien Drucker, pas mal, bien Dimanche, bien. Et mon temps me laissait des messages sur mon répondeur. C'est mon temps, fils. Bien. Mais on tire vers le haut. Digne, populaire, mais digne. Oui, monsieur mon temps.
Alors, le foot, la Coupe du Monde.
Et un jour, elle m'appelait Drucker. Drucker, la France va jouer la Coupe du Monde. En 68, en Argentine. Platini est le capitaine. Je veux venir sur votre plateau. Et je veux demander à l'équipe de France de ne pas jouer en Argentine, de ne pas aller cautionner la junte militaire qui est au pouvoir en Argentine. Avec ce drame argentin, les généraux sont au pouvoir, la France ne peut pas aller jouer en Argentine. Bien, madame, qu'est-ce que je fais? Je viens sur votre plateau, vous m'interviewez, face caméra, je demande à Platini de ne pas y aller, et vous ne me coupez pas. Et moi, j'ai dit, écoutez, madame, d'accord, mais il faut quand même que j'en parle à ma hiérarchie, à mes patrons. Vous faites ce que vous voulez, Drucker, mais écoutez, madame, d'accord. Elle vient, on enregistre, elle s'adresse à Platini, je vous demande de ne pas aller jouer en Argentine, qui est un régime effrayant, avec tous ces morts, etc. Bon, la direction, je suis obligé de prévenir, nous sommes en 78, hein, c'est encore Giscard qui est là, Mitterrand prépare son retour, et finalement, on dit, écoutez, bon, Michel, il y a plus d'avantages à laisser ça. Bien entendu, ça n'a servi à rien, Platini est allé, je suis allé commenter la Coupe du Monde, mon hôtel était à Buenos Aires, sur la place de Mai, il y avait les veuves, les pleureuses de la place de Mai qui tournaient pendant des années pour réclamer le corps de leur mari, de leurs enfants disparus. C'est un régime épouvantable. Mais elle m'en était reconnaissante, toujours, de l'avoir laissé parler. Mais c'était une femme qui me faisait peur. Je l'ai beaucoup vue à la fin de sa vie. Elle avait des raisons d'être malheureuse. Et il y avait eu ce couple, quand même, qui avait effrayé la chronique. Tout le monde entier était au courant de la liaison avec Marilyn Monroe. Simone Signoret a perdu lentement la vue. Elle a beaucoup bu. Elle a terminé. Elle a fait un livre magnifique sur la nostalgie. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Et ma façon à moi de me souvenir de ce couple, c'est d'avoir engagé Benjamin, d'avoir aidé Benjamin. Mais mon Dieu, que j'ai eu peur avec Signoret et mon temps.
Alors, autre Simone, pas facile, parce que je l'ai aussi pratiqué dans quelques émissions, Simone Veil.
Alors, Simone Veil m'impressionnait beaucoup parce que, évidemment, rescapée d'Auschwitz, vous imaginez, hein, le numéro de matricule sur son bras, quand
mais
même,
on
c'est
pas. On n'ose pas, on a un dévouement.
Alors, c'était l'idole de la famille. On pensait un jour qu'elle serait présidente de la République, la loi Veil, tout ce qu'elle a fait, grand ministre, j'étais très impressionné par elle. Et puis, mon rêve, c'était de faire un dimanche avec elle. Comme elle était au Conseil constitutionnel, elle me disait toujours. Cher monsieur Drucker, j'ai un devoir de réserve, je ne peux pas, je suis nommé pour 6 ans, pour 9 ans. Le jour où je ne serai plus au Conseil constitutionnel, je viendrai. Et puis, elle a tenu sa promesse. Nos livres sont sortis à 6 mois d'intervalle. Une vie, il y a 3 ans, et moi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a été 2 ou 3 des grands best-sellers de l'année, ce qui nous a un peu réunis. Elle est venue avec son mari, ses enfants. C'est un souvenir absolument magnifique, et je suis fier d'avoir dans mes archives un dimanche avec Simone Veil, mais elle n'est pas commode. Hein. Et il y a une anecdote que je raconte, Karl Lagerfeld, elle est rentrée à l'Académie française, et Karl Lagerfeld lui a fait sa tenue. Et Lagerfeld, qui a un humour au couteau, il balance. Hein. Alors, Karl Lagerfeld, que je connais depuis toujours, un jour me dit, tu sais, j'ai passé la journée avec Simone Veil, avec son élocution saccadée, et alors, elle n'est pas commode, elle n'est pas commode, elle n'est pas commode. J'ai failli lui dire, vous savez, moi, j'y suis pour rien dans la Shoah. Et je le mets dans le livre.
Oui, c'est dans le livre. Alors, c'est une bonne transition vers les politiques, parce que, effectivement, depuis Vivement Dimanche, notamment, tu as beaucoup fréquenté, invité d'hommes politiques.
Beaucoup.
Et alors, il y en a un dont nous sommes un peu proches tous les deux, d'ailleurs, parce que moi, je l'ai aussi beaucoup fréquenté dans la campagne de 1988.
Le maire de Bordeaux?
Non, oui, le maire de Bordeaux, bien sûr.
J'ai fait une très bonne émission avec un Juppé.
Bien sûr, le maire de Bordeaux.
Et avec sa femme Isabelle.
Mais celui qui était maire de Paris à l'époque.
Jacques Chirac.
Jacques Chirac.
Le chapitre sur Chirac qui pour moi n'a pas pu te laisser insensible.
Ah non, j'ai
allez,
adoré.
Je vais vous faire un grand numéro sur les Chirac. Quand j'étais tout jeune présentateur, Michel Arnaud, qui m'avait mis le pied à l'étrier, Michel Arnaud est une très grande productrice, chanteuse des années 50, qui avait découvert Gainsbourg, qui était son pianiste au Miller Larsouille. D'ailleurs, le 19 février, c'est dans un mois, je présente un samedi soir un hommage à Gainsbourg, donc où je parlais de Michel Arnaud. Et Michel Arnaud était très ami avec Georges Pompidou et aussi avec François Mitterrand.
Avec François Mitterrand.
Voilà. Je crois même, je suis même sûr parce qu'elle me l'a dit, qu'elle avait bien connu François Mitterrand. Ce qui s'appelle bien connu François Mitterrand.
Ouais.
Et elle me l'avait dit en arrivant, François Mitterrand qui était aussi un grand séducteur et qui avait eu comme fiancée à ses débuts Catherine Langer. Demandez-moi, je suis au courant de tout. et de toute la vie personnelle des gens que je reçois.
Parce
et heureusement,
que
ça
Michel m'évite. Michel et moi, nous avons tous les deux travaillé avec personne.
Oui, et puis, il vaut mieux de temps en temps. C'est Zéro Citron. J'avais dit à Citron, Monsieur Citron, j'étais son porte-valise, c'était son grouillot de Citron. J'ai dit, Monsieur Citron, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une longue carrière ? Travailler et toujours savoir qui a couché avec qui. Ah bon, quand même. Vous gagnerez du temps. Il avait raison, j'en ai gagné beaucoup. Et ça m'évite des impairs souvent le dimanche, croyez-moi.
Je te racontais une histoire à Chirac, puisque tu disais Chirac, il me dit, dedans, je suis beaucoup accompagné, et il passait devant des toilettes, il allait aux toilettes. Il sortait des toilettes, il me disait, Jean-Pierre, si vous voulez faire de la politique un jour, vous allez aux toilettes dès que vous en voyez.
Et alors ? Et chez Georges Pompidou, qui était le voisin de Madame Marnot à Orvilliers, il allait devenir président, j'étais invité de temps en temps. Et c'est là où j'ai rencontré les amis de 30 ans, Balladur et Chirac. J'avais des grands yeux comme ça, j'avais 23 ans, et je voyais ce type hyper séduisant qui commençait sa carrière. Et donc, j'ai toujours suivi M. Chirac, il a toujours eu beaucoup d'affection pour moi. Vous savez, moi, si je suis là encore aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens importants, alors que moi, je n'étais absolument rien du tout, rien. Que ce soit des stars de cinéma, des stars de la chanson, de la politique, qui m'ont pris en affection, car j'étais le gamin de la télévision. Souvent, on me dit, Drucker, il est trop gentil. Souvent, ça frise la complaisance. Comment voulez-vous que j'allume, moi, sur un plateau de Johnny Hallyday? On a tremblé ensemble, on a eu 23 ans ensemble. Aznavour m'a mis le pied à l'étrier. Tous ces gens, je les ai connus gamins. J'ai pas quand même le.
Mais moi, je vous dis une chose.
Je suis pas ni Zemmour, ni Nolo.
Michel, hein, Michel, il est profondément gentil.
Je peux pas, mais bon. C'est pas moi ma culture. J'ai pas été élevé comme ça. Ma mère descend et me donne deux
gifles.
Alors Chirac, on décide de faire pour son livre, Les Mémoires, il y a 3 ans, une grande émission. Et je me dis, ça, il faut absolument, parce que ça sera la dernière fois qu'on le verra en tête à tête. C'était très compliqué, car je voulais que son petit-fils soit là. J'ai réussi la performance, Martin était là. Et Chirac est un personnage hors série. Autant il est verrouillé, comme l'était Mitterrand, devant la caméra, la télé, c'est pas son truc. Il a toujours été crispé. Autant, dès que c'est fini, qu'il enlève la cravate, c'est l'homme le plus irrésistible que je sais. Et Bernadette, hallucinant. Hallucinant. Alors, on a préparé tout ça. Et alors, Jacques Chirac, vers 11h, 11h30, surtout en ce moment, la première question qu'il vous pose, quand est-ce qu'on mange? Donc là, on avait une émission à faire, et Bernadette m'avait dit, et sa fille, Michel, C'était l'année dernière, il y a 2 ans. C'était ses mémoires, il n'était plus du tout au pouvoir. Il faut le faire entre 11h30 et 13h30. Mais pas trop tard, parce qu'il a faim très tôt, et ensuite il fait la sieste l'après-midi. Donc on avait tout calé. Et à chaque fois qu'il venait au studio, soit pour faire des photos, soit pour l'interview, quand est-ce qu'on mange? Et Nelly, ma maquilleuse, Nelly qui a maquillé la terre entière et tous les présidents, maquille Chirac. Et elle me dit, tu sais, il faut vite enregistrer parce qu'il m'a demandé quand est-ce qu'on mange. Et plus l'émission avançait, deuxième question capitale, qu'est-ce qu'on mange? Donc on lui avait tout préparé, c'était extrêmement émouvant. Mais les rapports avec Bernadette sont formidables. J'ai fait 2 vivements dimanches avec Bernadette. Il rentrait dans le bureau où on préparait l'émission et il me disait, Drucker, elle prépare ça comme un examen. Elle a intérêt à être bonne, la tortue. Il l'appelle la tortue. La tortue, elle a intérêt à se manier, à mon avis. Eh bien, la tortue, elle a été drôlement utile depuis 2002. Ouais. C'est une femme admirable et qui n'arrête pas, quand je la vois, de me dire, comment allez-vous, Bernadette ? Oh, ne vivez jamais avec un vieux. Elle a un humour d'acier. Et lui est un séducteur né.
Moi, je vais raconter une petite anecdote avec Chirac. C'est en 88, pendant la campagne des présidentielles. Oui. Je l'accompagnais, j'ai animé 25 meetings. Et je me souviens un jour à Strasbourg, pendant le meeting, je vois qu'il suit à grosses gouttes pendant les discours de ses camarades. Et puis, il parle à une vitesse pas possible. Et on lui dit de se calmer, etc. Et dans l'avion qui nous ramène sur les gouttes d'une heure du matin à Paris, je lui dis, mais monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes souffrant, parce que c'est incroyable. Il me dit, non, Jean-Pierre, je suis le seul à avoir mangé une douzaine d'escargots avant ma choucroute, le tout arrosé de bière.
C'est un ogre. C'est un homme charmant. C'est une famille très émouvante qui a vécu beaucoup de drames dans sa vie. C'est un parcours incroyable. C'est quelqu'un qui aime profondément les gens. À la foire du livre à Brive, il a pu signer 1000 livres. Et le portrait que je fais de cette famille dans le livre, en racontant par le menu les coulisses de cette interview, qui est un de mes grands souvenirs de carrière, parce qu'on ne le reverra plus jamais pendant une heure comme ça, parce que en plus, il a un léger problème d'audition, que j'aurai un jour moi aussi. Donc, c'était très émouvant. Il n'y avait pas de public. Et on lui avait dit, comme c'était son anniversaire, on avait décidé que l'émission serait diffusée le jour de son anniversaire. Et avec Bernadette Chirac, j'ai dit, écoutez, quand il a quitté l'Élysée, son chien Sumo a fait une déprime. Il est passé du jardin de l'Élysée à un balcon. Il est devenu fou. Il a commencé à mordre Chirac. Il l'a mordu à l'abdomen. Donc Chirac m'a dit, Sumo est fou. Sumo est devenu fou. Donc j'ai dit à Bernadette, ils ont exilé Sumo à la campagne, on va lui offrir un nouveau bichon maltais. Et à la fin d'émission, quand on lui a offert ce chien, plus personne n'existait. Il caressait ce chien, il était ému, et je l'ai vu l'autre jour, il est très heureux. Mais c'est très émouvant, vous savez, quelqu'un qui quitte le pouvoir après 50 ans de vie publique, et elle est une femme admirable, très généreuse, beaucoup plus généreuse que bien des femmes de gauche.
Je souriais en écoutant Michel, parce qu'il faut que vous sachiez que la marche du siècle, une bonne partie des émissions de longues années, on les a faites au studio Gabriel,
oui,
chez Michel, et qu'un jour j'avais réussi, je ne sais pas si tu te souviens de ça, j'avais réussi à convaincre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing d'être tous les deux sur le plateau.
Oh là là.
J'avais mis 4 mois de négociation.
Tu as vu ce que je raconte sur la relation entre les deux.
J'avais mis 4 mois de négociation pour faire ça. Et le matin, la veille de l'émission, mon assistante m'appelle et me dit, Jean-Pierre, au studio Gabriel, ça ne va pas du tout. Le monte-charge qui descend et qui monte le décor est coincé en bas. On ne peut pas le remonter. On ne peut pas faire l'émission. Je lui dis, écoute, alors tu fais ce que tu veux. Ça fait 4 mois que je négocie avec Giscard et avec Chirac. Donc on fera l'émission. Tu fais ce que tu veux, etc. Et tu te souviens qu'on a monté, avec les charpentiers de Paris, un échafaudage en bois posé sur le monte-charge au fond et qui rattrapait la hauteur de la Seine au studio Gabriel.
Alors dans ce livre, je raconte Chirac et Giscard se détestent. Et c'est surtout Giscard qui déteste Chirac, parce que vous vous souvenez de la campagne de 88.
Oui, 88.
Le deuxième mandat du président Mitterrand. Mathématiquement, on sait que M. Mitterrand a été élu avec des voix qui ne lui était pas destiné. En l'occurrence, certains disent que Chirac a appelé à voter Mitterrand au deuxième tour et que Giscard ne lui aura jamais pardonné. Ce qui est la vérité. Et je fais une émission un jour. Le jour où j'ai fait l'émission avec M. Chirac, c'était la dernière partie, vivement dimanche prochain, du réunion. Et l'après-midi, je faisais une émission, il y a la photo d'ailleurs, ils ont 4 fois 20 ans. Je suis fasciné par les gens qui, à 80 ans, sont encore physiquement et intellectuellement au top. Donc j'ai invité Colette Renard, qui était encore de ce monde, Ginette Garcin, Carrel, Giscard, Annie Cordy, Aznavour, Lynn Renault, Marthe Mercadier, ils étaient tous là, Hugo Frey. Et Giscard n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était là l'après-midi et pas le soir. Alors je dis, monsieur le président, parce que le soir, je consacre une émission d'une heure à Jacques Chirac. Mais pourquoi une heure? Je dis, parce qu'il vient de faire ses mémoires. Mais il n'a pas de mémoire. Je dis, écoutez, il vient de faire ses mémoires. Mais... Alors je lui dis, mais... Est-ce que vous avez eu parler de moi? Je n'en sais pas lui, parce que moi, je ne parlerai pas de lui. Hein, très bien. C'est une haine épouvantable. Et alors, on a fait cette émission, et Giscard, qui a un humour d'acier, m'avait dit un jour, quand on a fait l'émission avec Giscard il y a plusieurs années, un dimanche, en parlant de Chirac, il a dit, vous savez, monsieur Chirac, un jour, il aura les juges à 8h du matin devant sa force. La telle haine qui est entre eux. Mais c'était extraordinaire. Alors, j'ai dit, monsieur, pourquoi Chirac n'est pas là l'après-midi? J'ai dit, d'abord, parce qu'il a fait ses mémoires, il a droit à une heure. Et ensuite, parce que lui, il n'a pas encore 80 ans. Alors là...
Ah ben, je vais te raconter une histoire.
Il n'avait pas 80 ans.
Je raconte une toute petite histoire que m'a raconté Jean-Louis Debray, qui a une maison sur le bassin, ici, pas très loin, qui m'a raconté l'autre jour, quand il préside le Conseil constitutionnel, il a VGE à sa droite et Chirac à sa gauche. Il me dit, j'attends toujours le moment où le premier va tirer. Ouais. Et ça ne rate jamais, il y en a toujours un qui tire le premier. Il me dit l'autre jour, c'était Giscard qui a commencé en disant, oui, alors quand le président Chirac était mon premier ministre, l'autre, la tranche, et 10 minutes après, il répond, et Chirac prend la parole, parle, il dit, et quand j'ai été élu pour la deuxième fois, car moi j'ai été élu deux fois...
Des enfants. Et j'ai demandé à M. Chirac, alors comment ça se passe avec, avec Giscard ? J'arrive, je lui dis bonjour, et une heure après, au revoir. C'est des, vous savez, les hommes politiques, c'est aussi des enfants.
Hein. Bon, Michel, le temps passe, on raconte beaucoup d'histoires passionnantes, de souvenirs, on évoque des souvenirs.
Il y a le Johnny qui est pas mal.
Justement, j'allais te demander de nous parler de Johnny.
Allez, je vous fais Johnny.
Avant que nous revenions un petit peu vers la Provence.
Johnny, la photo que vous verrez, on s'est connus, on avait 22 ans. Ma première émission de télévision à Douai, dans le Nord, s'appelait Tilt Magazine. Et lui revenait avec une mauvaise passe. Il vendait plus de disques. Il avait un début, il avait eu un creux. Et il a fait une cure de sommeil. Et il revenait avec une chanson qui s'appelait Noir, c'est noir. Et on rentre, il est 2h du matin, on a 23 ans. Il a un bolide, une Jaguar. Moi, je suis à côté de lui. Il me regarde. En quittant le banc, il me dit, est-ce que tu crois que je vais revenir au plus haut niveau? Et moi, je dis, est-ce que tu crois qu'on va me reprendre une deuxième fois? On a 23 ans. Un quart d'heure après, est-ce que tu crois? Et pendant qu'il me parle, je vois le compteur de la voiture, 200, 210, 220, 230, 50. Je dis, Johnny, on n'aura jamais la réponse. Les années ont passé. On se suit beaucoup, parce qu'on est des vieux complices. Et au Stade de France, 98, après la Coupe du Monde, il m'appelle en pleine nuit. Il est parti, je ne sais pas où. Sur son bateau, le Only You. Et avant de partir, il m'avait dit, est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Je t'imite bien, Johnny. C'est Laurent Gérard et Nicolas Canteloup. Je veux faire Apocalypse Now. Je vais arriver en formation et je sens allumer le feu. Je dis, t'oublies, Johnny. On peut pas. Les Beatles l'ont bien fait à San Francisco. Je dis, mais les Beatles, ils l'ont fait, mais il n'y avait personne.
Dans le stade.
Sur le stade, sur la pelouse, tout le public était autour. Il ne m'a pas lâché. Il m'a appelé toute la nuit. Johnny est un personnage hors série. Eh bien, il a réussi à me convaincre. J'ai travaillé des mois. Finalement, on a accepté qu'un seul hélico vienne. Moi, comme j'étais copilote, on fait le tour. La veille, le stade vide, dans la même lumière. Il se pose sur le stade. On descend, Johnny entre eux, il salue et on s'arrête. Le lendemain, c'est une doublure, un sosie, qui le fera. Mais sur l'écran, c'est bien lui qui descend, car il l'a fait. Sinon, il ne pouvait pas chanter, allumer le feu comme ça, parce que le bruit, le treuil... Bref. On prépare tout des mois, il m'appelle la nuit. Bref, le jour J, on décolle, ici les Moulineaux. Il y a la photo, il est harnaché, tout est prêt, il est là. Il est un peu blanc. Je suis à côté de lui, on décolle. Au-dessus de la défense, à 1 minute 30, du survol du stade, on ouvre la porte glissière et on entend dans le casque « J'ai le vertige. » Et je dis « Johnny, ça fait 6 mois. Descends-moi, j'ai le vertige. » Il l'a fait. Pour vous dire qui est Johnny, Laurent Gérard, dans Studio Gabriel, imitait Johnny et se moquait de lui tous les soirs. En pleine nuit un jour, ma femme, Dani, l'a connue avant moi dans les années 60. Il n'est pas 4 heures du matin. C'est Johnny. Je te réveille, Dani. Bon, ça va. Passe-moi ton con de mari. D'accord. Il est 5 heures du matin. Je t'aime la vie. Oui, Johnny. Tu diras à ce connard de Laurent Gérard que je vais lui péter la gueule. Et il raccroche. Non. Il rappelait 2 jours après et Laurent Gérard continue à l'imiter. Allô, Dani, passe-moi ton con de mari. Encore quand je dis con, c'était pire que ça. Ça commence par un E, ça finit par un E. Tu lui as dit? Mais je dis oui, je lui ai dit, Johnny, m'écoute, c'est un humoriste, c'est comme les guignols. Redis-lui, je vais lui péter la gueule. D'accord? Je raccroche une heure après, il rappelle, il me dit, j'ai oublié de te dire, je vais te la péter aussi. Je dis, mais Johnny, c'est de l'humour. Finalement, je lui ai présenté Laurent Gérard. J'ai dit, écoute, Johnny, on va aller le voir à l'Olympia tous les deux. On va être au balcon. Quand il... Parce que Laurent Gérard faisait fort, il faisait chanter Félicie aussi, à la manière de Fernandel, mais de Johnny. Félicie aussi. Là, c'est Ribéry aussi maintenant. Bon. Et alors, dès qu'il va t'imiter, tu applaudis, tu te lèves, t'as de l'humour. Alors, Laurent Gérard l'a regardé le balcon. Tous les gens ont découvert qu'on était là avec Johnny. Tout le monde a applaudi. Quel humour. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ça n'ait pas changé, parce qu'un jour Laetitia lui a dit « Mais disons, m'amour, tu sais qui te fout de ta gueule ?» Johnny. Donc à mon avis, je me demande si c'est pas reparti pour un tour. En tout cas, moi, je change de numéro de téléphone.
Michel, je voudrais que...
Un garçon incroyable, l'idée, vous savez. S'il est encore là, c'est pas par hasard.
Avant qu'on demande à la salle, qui a sûrement beaucoup de questions à te poser, je voudrais que on revienne un petit peu en Provence.
Ah, la Provence, c'est la terre maintenant.
Eh bien, d'abord, tu dis quelque part... Il y a quelque chose qui est très important, je trouve, tu dis dans ton livre, tu dis « Le chagrin, je le gère.
Oui.
Je gère tout. Il n'y a rien que je ne puisse pas gérer, sauf toi, en parlant de Jean. »
Oui.
Et donc là, le retour en Provence...
C'est compliqué, parce que...
Et le ralliement, comme souhaitait ta mère.
Voilà. Ma mère m'a toujours dit, avant de mourir, « Tu vas rassembler la famille. Je compte sur toi. » Mon père m'a dit la même chose. Mais il y avait Jean. L'aîné. Maintenant, il n'est plus là. Et je gère la saga. Je gère Marie, qui me considère comme son deuxième père. Je tremble quand je la vois présenter le journal. Mais qu'est-ce qu'elle a comme talent? Je gère Léa, qui est une épatante comédienne. Je gère un petit garçon qui avait 4 ans quand son père est mort, qui en a 13.
Vincent.
Et je gère les neveux, les nièces. Je gère ma propre famille. Je suis un vieux marié, moi. L'année prochaine, je suis marié depuis 40 ans. J'ai traversé toutes les tempêtes dans nos métiers, croyez-moi, c'est les coulisses de l'exploit.
Et j'ai connu Denis Saval, elle n'était même pas mariée avec Michel.
Voilà. Et je gère une grande fille que je considère comme la mienne.
Stéphanie.
Qui avait 5 ans, qui en a 46 et qui est une épatante décoratrice.
Et qui a une très jolie petite fille.
Je gère Rebecca. Je gère également une petite cambodgienne qui s'appelle Hélène, que j'ai recueillie chez moi à l'époque de Coulibon. Elle est restée 10 ans chez moi. Donc tout ça, c'est la saga. Je gère tout ça, plus ma carrière à la radio, à la télé, plus les dédicaces à Bordeaux. Voilà. Et je gère tout ça et j'arrive à tout faire, mais je le fais aussi parce que Jean n'aurait pas accepté que je me laisse aller au défaitisme. Donc je pense à Jean tous les matins, je pense à ma famille, et c'est vrai que Jean n'aurait pas beaucoup aimé que je fléchisse. Mais quand je rentre sur scène, je t'assure, pour Champs-Élysées, quand je rentre sur scène pour une émission importante le dimanche soir, je suis là et Marie m'a dit la même chose. Pendant le générique du journal télévisé, elle pense à Jean. Et moi, j'entends Jean me dire dans l'oreille, dans le générique, « Sois bon ».
Merci Michel. Nous allons... Ça m'a fait... Merci à vous tous. Et vraiment, ça m'a fait plaisir que nous dialoguions tous les deux pendant un peu plus d'une heure et demie.
Et en principe, je dois faire une émission à la rentrée prochaine, mais on va attendre que tous les problèmes électoraux se calment, avec Alain Juppé. J'ai fait une très bonne émission avec lui il y a quelques années. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et quand je viens à Bordeaux, je repense à Jacques Chaban-Delmas. Il était un des premiers que j'ai interviewé. C'était où ? Évidemment, sur un court de tennis.
Merci.